Vous écoutez
RMC.
7h59 sur RMC, RMC Story, c'est le soleil et la chaleur au menu bien sûr Géraldine.
La chaleur qui va vraiment s'intensifier dans les prochains jours, là on est au tout début avec des températures qui ont déjà augmenté ce matin sur le sud-ouest, hein. On a déjà eu une nuit quand même parfois assez difficile avec plus de 20 degrés. Cet après-midi on ira jusqu'à 35 degrés à Montpellier, à Perpignan, 34 à Bordeaux, il fera 33 degrés à La Rochelle, à Nantes, à Toulouse aussi, Paris, 30 degrés à Paris et à Lyon, 28 à Marseille, 21 en revanche pour Lille, on a un peu de fraîcheur près de la Manche, beaucoup de soleil. Quelques grisailles quand même vers les côtes bretonnes, mais également Aquitaine ou de la Méditerranée. Quelques orages aussi essentiellement sur le relief. Et puis donc cette chaleur qui va monter d'un cran, surtout à partir de mercredi, où là vraiment on va rentrer dans une période de canicule. Mercredi on aura des températures souvent comprises entre 32 et 36 degrés sur le pays. Jeudi on devrait aller jusqu'à 38 à Bordeaux, 37 à Lyon, 36 à Paris. Et il fera très chaud au minimum jusqu'en début de semaine prochaine.
Il est 8h, très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un pas vers la paix. Washington et Téhéran confirment un accord à l'aube d'un sommet du G7 qui devrait servir à peaufiner les derniers détails avant la signature prévue vendredi à Genève. La philo au programme des futurs bacheliers qui viennent de soulever leur copie à l'instant alors qu'on attend de fortes chaleurs. Cette semaine, en plein bac, le gouvernement propose de mettre fin aux épreuves l'après-midi dès l'année prochaine. Et le compte à rebours est lancé à J-1 du premier match des Bleus à la Coupe du Monde face à des Sénégalais déterminés. RMC s'est rendu à Dakar. Reportage dans ce journal.
Donald Trump attendu en France cet après-midi.
Après avoir organisé cette nuit un combat de MMA à la Maison Blanche pour ses 80 ans, le président américain va s'envoler donc pour le G7 à Évian. Le sommet prend une toute autre dimension cette année en raison de l'accord de paix confirmé hier soir par les États-Unis et l'Iran. Les deux parties ont prévu de se retrouver vendredi à Genève pour une cérémonie de signature. Romain Cluzel, service politique RMC, nous rejoint. Certains détails doivent encore être réglés. Ils seront sur la table du G7, Romain. Et même dès cet après-midi, midi 17h30 à l'occasion d'une rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron.
Et Emmanuel Macron compte insister sur deux points. D'abord, la sécurisation du détroit d'Ormuz après l'annonce de l'accord. Donald Trump s'est réjoui d'une réouverture pleine, sans droit de passage pour les bateaux. Mais le détroit reste dangereux. Les Iraniens ont installé de nombreuses mines depuis le début du conflit. C'est pourquoi Emmanuel Macron, accompagné du Premier ministre britannique et d'autres pays, propose une coalition pour permettre aux bateaux de franchir le détroit dans les prochains jours et les prochaines semaines. Une condition indispensable à la stabilité régionale et à l'économie mondiale, insiste le président. Et puis Emmanuel Macron veut s'assurer que la fin du conflit s'applique pleinement au Liban. Le chef de l'État réclame un cessez-le-feu robuste et durable pour que le pays retrouve sa souveraineté territoriale. Encore hier, avant l'annonce de l'accord, Israël a bombardé le sud de la capitale Beyrouth et on attend toujours ce matin la réaction de Benjamin Netanyahu à cet accord. Le président français compte aussi évoquer avec Donald Trump les négociations qui s'ouvrent désormais entre États-Unis et Iran, notamment sur le programme nucléaire iranien.
Donald Trump et les autres dirigeants du G7 attendus pour 3 jours au bord du lac Clément à Évian, je vous le disais, barricadés, placés sous très haute sécurité. 16 000 policiers et gendarmes sont déployés sur place pour l'occasion. Rachel Sadoudine, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC sur place et en direct ce matin dans cette ville de 10 000 habitants quasiment coupée du monde sous cloche.
On n'a jamais aussi bien entendu le chant des oiseaux dans le centre-ville d'Évian. Quasi aucune voiture, hormis quelques patrouilles de police, de gendarmerie. Et pour cause, il faut un laissez-passer avec un QR code pour entrer dans la ville. Benoît, responsable d'une boulangerie, n'avait pas vu ça depuis le Covid.
La ville d'Évian est morte, en tout cas de clients. C'est-à-dire personne dans les rues ou très peu. Et de ce fait, on a une perte d'exploitation à peu près de 50 à 60% par rapport à d'habitude.
Pour limiter la casse, beaucoup de commerces ont renoncé à ouvrir pendant ce G7. Pas mal de grilles fermées autour de moi, mais les hôteliers, eux, s'en sortent bien comme Séverine.
Dans une petite bulle. En vrai, c'est une période super sympa à vivre en tant qu'habitant. En tant que commerçant, c'est différent. Les hôteliers, on s'en sort bien parce qu'on a toutes les délégations, tous les journalistes à loger, donc on s'en sort bien au niveau de l'hôtellerie. On circule dans les vies encore mieux qu'avant. Non, c'est vraiment une bulle de plaisir.
Le plaisir, pas sûr qu'il soit partagé par les élèves de terminale. Le lycée d'Évian étant fermé, le périmètre bouclé, eh bien, ils ont dû prendre le bus très tôt ce matin, escorté par les forces de l'ordre, direction Thonon-les-Bains pour leur épreuve de philosophie du baccalauréat qui vient d'ailleurs de débuter.
Rachel Sadoudine, en direct d'Évian ce matin pour RMC. La guerre au Moyen-Orient, donc ses conséquences aussi, on vous en parle régulièrement dans ce journal. C'est le cas des prix des carburants. Si les cours du pétrole repartent à la baisse sous les 85 dollars ce matin, il faudra encore du temps avant de voir les effets à la pompe. Et pour des milliers de Français, il faut continuer à vivre. Travailler, parfois le ventre vide, c'est le cas pour une majorité de travailleurs précaires, des CDD, intérimaires ou encore temps partiel, vivant sous le seuil de pauvreté, contraints de restreindre leur quantité de nourriture. C'est le résultat d'une étude Ipsos pour le réseau d'épiceries solidaires andaises que vous révèle RMC ce matin. Et pour 40% de ces travailleurs pauvres, sauter un repas n'est pas un choix. Solène Leroux a pu s'en rendre compte à Paris.
Au sein de ce jeune couple, le seul salaire fixe, à peine 1500 euros par mois, c'est celui de Mitya, vendeuse, compliquée de faire des courses convenables.
Des fois, j'ai des envies de bonnes salades, de bons fruits, et quand je vais voir le prix, ça me donne même pas envie de manger. Quand tu payes le loyer, les charges et tout ce qui s'ensuit, deuxième semaine, on commence déjà à manger des pâtes. Hein.
Beaucoup de féculents, c'est presque la routine pour 70% des travailleurs pauvres. Chez Razad, a beau être employé dans un restaurant scolaire, c'est difficile de nourrir ses deux enfants.
Les salaires ne bougent pas, la viande, tout ça, ça coûte très très cher. J'ai mangé assez, oui. Quand il y a des bons trucs, je les donne à mes enfants. Je préfère mes enfants avant moi.
Je suis Thierry, je suis trésorier de Solidaya, donc il y a une épicerie solidaire.
C'est un lieu où les personnes dans le besoin peuvent faire des courses à bas prix. Environ la moitié des bénéficiaires ont un travail.
Des personnes en CDI, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, on ne voyait pas encore. Mais là, on a de plus en plus de gens qui ont un emploi. Simplement, ça ne leur permet plus de vivre correctement.
La solidarité nationale, on ne la voit pas forcément, dit-il. Plus de 4 travailleurs pauvres sur 5 se disent abandonnés par les pouvoirs publics.
RMC 8h05, attention au coup de chaud. Avec la hausse des températures attendues en milieu de semaine, on pourrait dépasser les 30 degrés ce lundi par endroit. Et c'est dans ces conditions que débutent les épreuves du bac. La première, elle a déjà commencé pour 530 000 bacheliers, concentrés sur la philo depuis maintenant 5 minutes. Et justement, la question de la chaleur pendant les épreuves, elle fait débat. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, veut y mettre fin l'après-midi à partir de 2027. Décision un peu tardive, selon Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du bricolage. C'est-à-dire que là, on a un ministre qui, 3 jours avant, se dit « Ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait mettre les épreuves que le matin. » C'est pas 3 jours avant qu'on arrive à gérer une canicule. On sait très bien qu'on est face à un réchauffement climatique et que ça nécessite pas seulement une adaptation des horaires, mais une adaptation du bâti scolaire. Il y a eu des coupes budgétaires dans les fonds qui sont dédiés à la rénovation du bâti scolaire. Donc le signal est très clair. Le gouvernement n'a visiblement pas grand-chose à faire du fait qu'on passe maintenant des jours, voire des semaines, dans des bouilloires thermiques, et c'est absolument scandaleux.
Sophie Vénétité, invitée d'RMC ce matin. L'appel à de nouveaux rassemblements devant les tribunaux du pays ce soir pour réclamer une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans le sillage de l'affaire Liana. On est à J-1 de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les hommes de Didier Deschamps ont quitté Boston pour New York. C'est là qu'ils vont affronter le Sénégal demain 21h sur RMC. 24 ans que les deux nations ne se sont pas affrontées. C'était en 2022. Les Bleus n'en gardent pas un bon souvenir. À l'inverse, des Sénégalais sûrs de leur force cette année encore. Nos équipes se sont rendues à Dakar pour RMC. Arnaud Valadon.
Oui, et au Sénégal, ce match face aux Bleus sera l'événement le plus regardé de l'année à la télévision par des supporters qui affichent une confiance débordante.
Ça sera chaud parce que c'est France et Sénégal, mais à la fin, on sait qui sortira vainqueur.
Et c'est qui ?
C'est le Sénégal, c'est clair, mec, c'est clair, c'est le Sénégal.
Impossible de ne pas sénégalais. Avec cette belle équipe que nous avons, moi, l'objectif que j'ai dans ma tête, c'est tout simplement aller conquérir le monde et on va se donner les moyens pour.
Et si l'équipe nationale marche bien, c'est grâce à ses jeunes joueurs, selon Mohamed, entraîneur au club de Dakar Sacré-Cœur.
La formation qu'on a eu à cette décennie-là nous a fait du bien. Les clubs formateurs comme le nôtre et les autres académies font du bien à l'équipe nationale.
Pour Adama Kandé, journaliste à 2S TV, deuxième chaîne de télé du pays, tous les Sénégalais ont encore en mémoire la victoire 1-0 contre la France en ouverture du Mondial 2002.
Elle a permis cette Coupe du Monde de révéler des joueurs parce que beaucoup ont eu des contrats en Angleterre. Donc on ne peut pas oublier de sitôt cette année 2002. Donc tout ceci réuni fait qu'aujourd'hui, vous avez vu même dans l'attelage technique de l'équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs de 2002 qui sont là.
C'est par exemple le cas de Pape Thiot, l'actuel sélectionneur, qui compte bien rééditer l'exploit face aux Bleus demain soir.
Et oui, le dernier France-Sénégal, c'était en 2002. Et ce sera demain, 21h, sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, avec le début ce soir de la Belgique. Cette nuit, la Suède a battu la Tunisie 5-1. Les Pays-Bas font match nul face au Japon 2-2. À retenir aussi le succès écrasant de l'Allemagne face aux novices du Curaçao, 7-1.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h08 et c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Salut Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Le chiffre, les États-Unis et l'Iran ont donc signé cette nuit un accord de paix. Quelles conséquences pour l'économie mondiale?
Eh bien, à peu près les mêmes, Apolline, que lorsqu'on fournit une bonbonne d'oxygène à un déficient respiratoire. L'effet immédiat, c'est la chute des cours du pétrole. 5% en une nuit pour tomber à 82 $ le baril. C'est du jamais vu depuis le 3 mars. Même chose sur les cours du gaz, plus de 10% de baisse en une nuit. Une énergie moins chère et puis la perspective aussi d'une réouverture du détroit d'Ormuz qui va permettre de réapprovisionner le monde en engrais, en plastique, en aluminium, en produits chimiques, en méthanol. Eh bien, tout ça signifie moins d'inflation pour tout le monde. Moins d'inflation, c'est des taux d'intérêt plus bas. On a vu les taux d'intérêt à 10 ans américains retomber à leur plus bas niveau depuis 2 mois. Et ça veut dire aussi que les banques centrales vont avoir moins besoin de durcir les conditions du crédit dans les prochaines semaines. Tout ça, au final, est positif pour la croissance et éloigne la perspective d'un scénario noir. Accord donc vraiment salué par les marchés financiers cette nuit qui, pour le moment, ne veulent pas voir les accidents qui pourraient encore se dresser sur la route d'un accord parfait.
Tout ça, c'est au niveau mondial et pour nous, Français?
Alors, c'est d'abord à la pompe que nous allons gagner. Hein. Si cet accord est vraiment signé, ça veut dire 15 centimes sans doute de baisse sur un litre qui s'afficherait du coup entre 1,80 et 1,85 d'ici 15 jours, 3 semaines. Notre facture de gaz va aussi baisser au cours des prochains mois. Le recul des matières premières, c'est bon pour les comptes de nos entreprises et on pense particulièrement aux agriculteurs qui vont pouvoir se réapprovisionner en engrais. Cet accord est aussi positif pour les dépenses publiques puisque ça signifie moins d'aide et plus de croissance, donc plus de recettes fiscales. Après, la France, on se réjouissait qu'elle soit un des pays les moins impactés grâce à son énergie nucléaire, à cause du fait qu'elle n'est pas particulièrement exportatrice par rapport à l'Allemagne, par exemple, et que donc la perturbation du commerce mondial ne l'affectait pas trop. Donc, évidemment, l'effet rebond sera peut-être plus faible qu'ailleurs.
Avec, évidemment, les premiers effets qui se font sentir. Ça monte ou ça descend, les chiffres du jour, comme chaque jour?
Alors, sur les carburants, bah évidemment, la baisse, on la voit pas encore. Hein. 1,99 le litre de gazole, ça baissait un tout petit peu. Le sans-plomb 95, il est toujours stable à 1,95 € le litre. Mais le pétrole, on a une forte chute, 10 $ de baisse en 5 jours. On est à 82. Et puis le gaz, forte détente aussi, hein, 44 €.
Avec cette baisse, pardon, du pétrole, ça veut dire que ça devrait se ressentir quand à la pompe?
Ah bah ça se ressentira dès la fin de la semaine, là, dès cette semaine. Et puis après, on peut espérer que l'intégralité de la baisse sera répercutée dans les 15 jours. Mais il faut voir si la baisse du pétrole se poursuit elle aussi. L'objectif raisonnable qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah, si on rouvre le détroit d'Ormuz, on retrouve les conditions du marché du pétrole d'avant la guerre. C'était plutôt un marché en surproduction. Ça veut dire qu'on peut retrouver les prix des carburants d'avant le conflit. Allez, peut-être pas pour les juilletistes qui partiront les premiers, mais au moins pour les haussiens.
C'était donc Emmanuel Le Chypre, il est 8h11.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12, restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demange va venir nous faire rire dans l'actualité à 8h30. Le face-à-face, mon invité, c'est l'ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, Gabriel Attal. J'interrogerai évidemment sur l'accord entre l'Iran et les États-Unis, les conséquences pour la France, mais aussi sur son fameux principe, vous vous souvenez, tu casses, tu payes. Eh bien, Sébastien Lecornu est prêt à le mettre en œuvre concrètement. Il a promis une loi depuis hier soir. On en parle avec Gabriel Attal, donc, qui est mon invité à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, 8h50, on reviendra sur le choix de la rédaction et cette information RMC. Plus de 500 permis de conduire suspendus depuis le début de l'année pour un téléphone au volant. Ce sera en direct à 8h50.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15, Arnaud Demange, pour notre plus grand plaisir, est avec
oui,
vous. Salut Arnaud.
C'est l'heure des blagues, avant une nouvelle semaine de blagues, que des blagues, là ça va être super. Alors si, non, il y a quand même un tout petit truc les amis, je suis désolé, avant de parler d'actu, j'ai une nouvelle un peu triste pour vos mamans. Franck Michael est décédé. Vous connaissez Franck Michael? C'était le chanteur préféré des vieilles dames, le crooner des EHPAD, le Patrick Bruel des mamies, mais avec un slip. C'était le womanizer de vos daronnes. Et alors en grand professionnel, il a attendu le décès de sa dernière fan, Bernadette Chirac, pour partir.
C'est très élégant.
Vous voyez, c'était un homme simple. C'était un gars qui faisait pas de selfie. Ceci dit, on a quand même retrouvé un dessin de lui avec une groupie sur les murs de la grotte de Lascaux.
Voilà.
Alors, son plus gros tube, je l'ai découvert ce week-end, c'est « Toutes les femmes sont belles ».
Toutes les femmes
C'était vraiment fait pour flatter la clientèle, hein. C'est parce que c'est un peu faux cul comme titre. C'est un peu comme si Michael Jackson avait chanté « Tous les garçons sont majeurs ». Bref, beaucoup de succès pour ce monsieur pendant 40 ans, mais malheureusement, aucune standing ovation.
Ginette, aide-moi à me lever. Mais j'y arrive plus.
Mais l'actu, c'est la politique internationale, Apolline. Voilà, the international politics. Votre kiff, c'est le G7 qui débute aujourd'hui à Évian. Le G7, c'est la Coupe du Monde des chefs d'État.
Oh, les champions, on est tous ensemble.
Que de souvenirs, hein. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq. Et 6, et 7, et ta Trump sera en France.
Ah ouais.
Ramenez le plouc de la maison.
Et alors là, il n'y a pas la Jordanie et le Curaçao, il y a l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie. Et zut, ça fait 6, il en manque un.
Mais il y a moi aussi. Je suis puissant, moi aussi. Je fais partie des pays puissants.
Non, bah non, Emmanuel Macron. Quand on est puissant, on arrive à faire passer des lois. On n'est pas esclave du bon vouloir d'Olivier Faure, en fait. Alors, le G7 à Évian, c'est la seule réunion internationale où l'eau est plus plate que les discours.
Voilà.
D'ailleurs, on connaît un peu le programme du G7. C'est la même chose à chaque fois. C'est jour 1, il faut agir. La situation est grave. Jour 2, il faut agir. La situation est grave. Jour 3, bon, on a posé les beaux diagnostics, je pense. On en reparle au prochain sommet. Allez, à l'année prochaine. Avant le G7, il y avait eu le G20. C'est la même chose. Les dirigeants, ils parlent tous un peu dans le vide, comme ça. C'est les monologues du G20. Tous les regards seront tournés vers Donald Trump. Le président américain, il est tout content. Il a obtenu un accord avec l'Iran. La réouverture du détroit d'Ormuz est proche. Mais alors, peut-être avec un péage. Vous avez vu ça? Avant la guerre, c'était gratuit. Mais maintenant, il y aura un péage grâce à lui. Trump, c'est un peu comme s'il débarquait un anniversaire où le gâteau est gratos, il te casse la gueule et il t'oblige à lui faire payer une part.
Voilà.
Très bizarre. D'ailleurs, cette nuit, c'était son anniversaire. 80 ans pour Donald Trump, c'est historique. C'est le premier président américain dont l'âge dépasse le QI. C'est beau. Et il s'est offert plein de trucs. Il y avait un spectacle de motocross, des combats de MMA. Il manquait juste du tuning. En fait, Trump, il est né dans le Nord-Pas-de-Calais, on le savait pas. Oh, tu es un Biloute. I love the Biloute. The great Biloute. Biloute are great. Là, le combat vient de se terminer. Trump, il va monter sur scène avec une mitraillette en or. Il va tirer des rafales en l'air. Après, il va manger un gâteau en forme de nichon avant un concert de Patrick Sébastien avec Mélania. Mélania, dis poète poète, camion. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Sur CNews, la chaîne du distingué Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignan, ils vont être là. Quel spectacle fabuleux. Une leçon d'élégance, c'est autre chose que Thomas Joly. Regardez, Afida Turner qui sort d'un gâteau. C'est admirable, n'est-ce pas, Christine Kelly? Oui, tout à fait. Pourquoi Emmanuel Macron n'organise-t-il pas le 14 juillet en faisant défiler nos armées sur Big Bisou et la compagnie créole? Oh oui, Big Bisou, Big Bisou, regardez, l'anniversaire de Trump continue avec ce défilé de chanteurs de country qui font des doigts d'honneur à une photo d'Obama. C'est merveilleux. J'exagère à peine en plus. Vous avez vu, il y a un des combattants qui a pris le micro pour dire Michelle Obama est un homme.
Non.
C'était la fête. C'est vrai.
À la maison blanche.
Bref, Trump se prend pour César avec des jeux du cirque qui va finir par donner des journalistes à bouffer aux lions. Heureusement que chez nous, on fait pas ça, hein. Tenez les lions, voilà David Pujadas. Il y a rien à bouffer là-dessus. Mais bon, non mais c'est lunaire. Qui organise des combats à main nue dans des cages pour son anniversaire? Apo, pour vos 35 ans, vous ferez pas ça quand même.
Non, c'est vrai.
Vous allez pas mettre Mathieu et.
Je serais bien.
Ben non, vous allez pas mettre Mathieu et Élise dans une cage. C'est quand même particulier comme ambiance.
Non, j'avais pas prévu.
C'est ça qu'ils sont coincés dans le supplément.
Oh,
après, on sait que Trump c'est un grand fan de MMA. Enfin, je veux dire. Déjà, allez, battez-vous!
Bagarre!
Battez-vous. Non, mais c'est un grand fan de MMA, Trump. Des gens torse nu, en sueur, et le gagnant immobilise le vaincu au sol. Ça lui rappelle les soirées avec les mannequins sur l'île d'Epstein. C'est quand même fun pour lui. Allez, bon lundi.
C'est bien parti cette semaine.
Bisous.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie. Aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h20. Philippe nous appelle de Gironde. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Apolline, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, c'est moi. Allô, bonjour. Voilà. Vous êtes bien sur RMC.
Oh, chouette.
Alors Philippe, cela dit, je vous ai au téléphone, mais vous vous l'êtes fait suspendre votre permis, vous étiez au téléphone au volant ou pas du tout?
Non, moi ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu une suspension, mais il y a plus de 20 ans, mais pour d'autres raisons.
Parce que Philippe, je reprécise effectivement que c'est donc 500 permis qui ont été suspendus. C'est une info RMC depuis que les Landes ont mis en place ce système. Suspendu entre 15 jours et 6 mois, hein, le permis pour le téléphone au volant. Vous avez échangé avec les gendarmes, vous êtes chauffeur poids lourd, Philippe?
Oui, tout à fait. Je suis chauffeur poids lourd et il y a quelques temps de ça, j'étais du côté d'Arles et à la sortie de l'autoroute à 54, comme fallait que je m'arrête, j'en ai profité pour aller les voir, pour leur poser la question parce que j'entendais tout et n'importe quoi.
Ouais.
Et ils m'ont bien dit, l'utilisation du téléphone, on ne l'interdit pas. Ce qu'on interdit, c'est que les gens l'aient en main en discutant.
S'il est en Bluetooth, comme on dit, ou même sur une oreillette, c'est bon?
Non, l'oreillette, c'est interdit.
Ah, ok, seulement Bluetooth.
AirPod, c'est interdit. Vous pouvez téléphoner, mais vous ne touchez pas au téléphone.
Ok. Donc,
si vous avez une voiture qui est équipée
en j'allais dire les mains en l'air, mais non, en fait, les mains sur le volant. Surtout pas les mains en l'air. Merci beaucoup. Merci, Philippe, d'être passé par le 32-16. Comme Philippe, vous n'hésitez pas, à tout moment, vous nous appelez au 32-16. Il est 8h22. Dans un instant, c'est le face-à-face. Je file sur BFM TV, en plus d'RMC. Et mon invité, c'est Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, et désormais candidat à l'élection présidentielle. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien Premier ministre, bien sûr, et désormais candidat à l'élection présidentielle. De très nombreuses questions à vous poser ce matin sur la politique en France, les suites de l'affaire Liana, le tu casses, tu payes, tu salis, tu répares, qui est en train peut-être de se mettre en place. Mais d'abord, bien sûr, votre réaction à l'accord de paix cette nuit. Donald Trump qui dit, ça y est, l'accord avec la République islamique d'Iran est désormais achevé. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture gratuite du détroit d'Ormuz. Simultanément à cela, j'autorise la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde, démarrez vos moteurs. Laissez le pétrole couler. Est-ce que, ça y est, vous l'accueillez avec soulagement?
Il faut être pragmatique dans ces affaires. Quels sont les intérêts de la France? Les intérêts de la France, c'est évidemment que la guerre s'arrête, notamment pour des raisons économiques. On a vu l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz sur l'économie internationale et notamment sur l'économie française, le prix du carburant pour les Français. Et puis, il faut être lucide. On a vu des atermoiements par le passé, on a vu des protocoles, des projets qui n'allaient pas à leur terme. Il faut être lucide aussi sur l'impact à plus long terme, sur la sécurité régionale et évidemment le fait que le régime des Mollahs ne peut pas être mis sur un piédestal alors qu'on parle d'un régime évidemment qui tyrannise son peuple, qui l'a réprimé dans la barbarie et dans le sang.
Donc pour vous, la vigilance sera aussi sur ce que fera l'Iran ?
Il y a toujours une vigilance à avoir, bien sûr. D'abord sur les suites qui seront données à ce préaccord qui a été signé. Et ensuite, évidemment, sur l'avenir. Quelles seront les conditions de sécurité qui auront été trouvées dans cet accord? Est-ce que ce sera mieux que la situation précédente avant la guerre? Vous savez, quand cette guerre a été déclenchée par Donald Trump, je m'étais exprimé en expliquant que cette guerre ne pouvait avoir du sens que s'il y avait un véritable plan pour libérer le peuple iranien et désarmer le régime des Mollahs. On verra si sur le désarmement du régime des Mollahs, l'accord permet d'y parvenir. En tout cas, sur la libération du peuple iranien, force est de constater qu'aujourd'hui, on a un peuple qui est toujours tyrannisé et martyrisé.
Emmanuel Macron a salué cet accord. Il devrait accueillir dans les heures qui viennent un certain nombre de chefs d'État, évidemment avec le G7, mais Donald Trump en particulier, qui s'apprête à décoller du sol américain pour rejoindre le G7 à Évian. Quel doit être le rôle de la France désormais?
Moi, je pense que le rôle de la France, ça doit être de participer aux discussions qui sont ouvertes pour garantir que cet accord puisse s'appliquer. Et ça doit être de participer à la libération, à l'ouverture du détroit d'Ormuz. La France avait pris une initiative que j'avais saluée avec notamment le Royaume-Uni et un certain nombre d'autres pays pour organiser une force conjointe pour participer à la libération et à la sécurisation du détroit d'Ormuz une fois qu'un accord aurait été conclu. Si l'accord est conclu, évidemment que la France doit pouvoir participer à cette sécurisation pour que le commerce international puisse reprendre dans de bonnes
conditions. La France a un rôle à jouer, en particulier là, dans les trois jours qui viennent autour de ce G7 et jusqu'à mercredi soir à Versailles avec ce dîner avec Donald Trump.
La France a toujours un rôle à jouer. D'abord, c'est sa mission, c'est son destin. Et ensuite, vous l'avez dit, cette semaine se tient le G7 en France. Et évidemment, sur la question iranienne, mais pas seulement. Sur la question ukrainienne, je rappelle qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, que cette nuit il y a eu des tirs de missiles de la Russie sur Kiev et sur l'Ukraine. Sur un certain nombre d'autres désordres internationaux, la France a évidemment un rôle majeur à jouer.
La question aussi des conséquences économiques, finalement, si le pétrole il a baissé évidemment cette nuit, sans que ça n'ait pour l'instant de conséquences à la pompe, mais si le pétrole continue de baisser, et si l'on revient effectivement à des prix à peu près convenables ou raisonnables, est-ce qu'il aura donc été finalement la bonne décision de ne pas faire de baisse sur les taxes ?
Moi, ce que j'avais demandé, en tout cas ce à quoi j'avais appelé, c'était à une aide ponctuelle et ciblée sur ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Et c'est ce qui a été proposé, c'est ce qui a été fait. Après, on peut toujours discuter des critères, etc. Mais j'ai fait partie de ceux qui appelaient à ce qu'il n'y ait pas de mesures générales très coûteuses, parce qu'à la fin, et les Français, je pense, le savent maintenant, à la fin, les Français finissent toujours par le payer. Quand il y a des aides extrêmement importantes qui sont mises en place, ils le payent en impôts supplémentaires ou ils le payent en dette à plus long terme pour leurs enfants.
Donc le choix a été le bon d'attendre.
Oui, bien sûr, moi j'avais salué cette décision qui avait été prise.
Gabriel Attal, retour en France avec de très nombreuses questions. Mais d'abord, ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu tard hier soir, qui semble répondre un peu à votre « tu casses, tu payes », qui avait été cette formule que tout le monde retient de votre discours de politique générale. Sébastien Lecornu l'annonce donc cette nuit. Après les violences et les destructions qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions, le gouvernement présentera dès juillet en Conseil des ministres un projet de loi visant à faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l'espace public. L'idée, c'est aussi une responsabilité collective, c'est-à-dire que si vous participez avec un groupe à de la détérioration, à des pillages, au fait de casser des abribus ou des morceaux de rue, eh bien l'ensemble, tant pis que vous ayez vous-même jeté un pavé ou pas, l'ensemble sera tenu pour responsable, y compris financièrement.
Bien sûr, moi je salue cette proposition qui a été faite et avec mon groupe parlementaire, on l'accompagnera à l'Assemblée. Vous l'avez rappelé, quand j'étais Premier ministre, j'avais affirmé dans ma déclaration de politique générale qu'il fallait en revenir à tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. J'avais rédigé un projet de loi en ce sens avec mon gouvernement. La dissolution l'avait interrompu. C'est une mesure qui vient quelque part concrétiser en partie ce à quoi j'avais appelé. J'avais réussi à faire passer une mesure et j'ai vu que certains préfets sont en train de l'appliquer, ce qui est une bonne nouvelle. C'est la possibilité de rendre les parents responsables financièrement des actes qui sont commis
par
leurs enfants. Bien sûr, je l'ai fait voter. Cette mesure, je l'ai proposée comme je suis revenu au Parlement en tant que député avec mon groupe. On a fait adopter cette mesure et j'irai même plus loin. Dans le droit précédent, il était dit que c'était le parent chez qui l'enfant réside qui était responsable des dégâts commis par un délinquant mineur. Bien souvent dans ces situations-là, c'est des familles monoparentales, c'est une mère seule qui parfois est dépassée par les événements et il y a un père qui est parti, qui se préoccupe pas de ce qui se passe avec son enfant. La loi que j'avais changée permet maintenant de rendre responsable, y compris le père, même s'il est parti depuis des années, ce qui permettra aussi peut-être d'impliquer un certain nombre de pères dans l'éducation de leurs enfants et dans la lutte contre la délinquance.
Donc la question des pères, la question des parents, la question des prestations sociales, Sébastien Lecornu précise donc dans le projet de cette loi, les prestations sociales pourront également être sollicitées dans des conditions prévues par la loi, avec vraiment l'idée aussi que ça puisse durer sur des années, l'idée qu'il y ait une petite somme peut-être régulière pendant longtemps, qui soit prélevé sur les visiblement sur les prestations sociales, soit prélevé sur les futurs salaires s'il s'agit de jeunes.
Oui, bien sûr, c'est dans la lignée de ce pourquoi je plaide et de ce que nous avions prévu de faire avec mon gouvernement. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Encore une fois, c'est très difficile aujourd'hui quand vous avez des manifestations, que vous avez quelques personnes qui sont identifiées, d'établir leur lien entre les personnes qui ont été interpellées et les dégradations qui ont été commises. Là, il s'agit de dire, si jamais vous avez participé à un attroupement qui était interdit, qui a donné lieu à des dégradations, vous êtes solidairement avec les autres personnes qui ont participé, tenu responsable. Et si vous n'avez pas les moyens de rembourser ou de payer des amendes très élevées tout de suite, ça se fera de manière échelonnée sur du plus long terme. Mais l'essentiel, c'est que les gens soient tenus responsables de leurs actes.
Avec une question quand même, Gabriel Attal, c'est que ça existait. Ça existait jusqu'en 1981. Ça a été aboli, supprimé par l'arrivée de François Mitterrand parce que on considérait que cette responsabilité collective sportive, eh ben, elle niait une éventuelle non-responsabilité individuelle de certains qui se trouveraient là un peu par hasard.
Je pense que ceux qui d'abord sont identifiés comme immédiatement en lien avec les dégradations seront toujours tenus davantage responsables que les autres. Et la deuxième chose, Apolline de Malherbe, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de phénomène de masse. Je veux dire, on peut pas accepter maintenant qu'à chaque victoire, que ce soit le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France ou je ne sais, qu'à chaque victoire, on anticipe à l'avance, on sait déjà à l'avance qu'il va y avoir des dégradations. Comme si finalement on avait intégré cette situation. Et donc on doit revoir notre arsenal. Et peut-être que si un certain nombre de lois n'avaient pas été supprimées, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui en termes malheureusement de délinquance dans ces situations.
Justement, justice et autorité, une question aussi sur les suites du drame de la mort de Liana. Vous avez proposé immédiatement un certain nombre de décisions, comme par exemple la suppression du juge d'application des peines, estimant qu'une peine qui a été énoncée doit être appliquée telle quelle. Et puis un certain nombre d'idées, notamment effectivement que les pédocriminels soient jugés ou considérés presque comme des terroristes. Et dans un entretien au Figaro que vous aviez dit ce matin, Édouard Philippe dans Le Parisien vous répond. Il est interrogé par mes confrères qui leur demandent s'il est d'accord avec votre proposition. Voilà la question. Gabriel Attal veut aligner le traitement des pédocriminels sur celui des terroristes. Êtes-vous d'accord? Et voilà la réponse d'Édouard Philippe. Je comprends que face à l'émotion, on cherche la formule choc pour montrer sa détermination, mais ce parallèle traduit une forme d'incompréhension de ce que c'est que la pédocriminalité. Comment vous réagissez? Vous comprenez rien?
Moi, je veux pas faire de la politique politicienne sur un sujet comme celui-là. Ce que j'ai dit, c'est qu'on doit appliquer le même suivi aux pédocriminels que celui qu'on applique aux terroristes. Ce que j'ai dit, c'est que on a bâti une organisation dans les services de l'État et les services judiciaires sur la question du terrorisme, avec un parquet national de lutte contre le terrorisme, avec ensuite toute une chaîne pénale qui est adaptée et un suivi qui est adapté. Je propose de faire la même chose. Je propose un parquet national contre la pédocriminalité et d'une manière générale les violences sexistes et sexuelles pour le haut du spectre, le haut du réseau. Et ensuite, je propose effectivement que dans la chaîne pénale, on organise les choses en matière de suivi, en matière de culture de l'urgence, comme on le fait sur la question du terrorisme. Ce qu'il faut, Apolline de Malherbe, c'est que quand il y a une plainte, il y ait immédiatement un acte de procédure en moins de 48 heures.
Mais est-ce que vous réagissez face à l'émotion en cherchant la formule choc?
D'abord, je pense que tous les Français ont été non seulement émus, mais bouleversés par ce qui s'est passé. Ensuite, moi, ça fait plus d'un an que je fais des propositions. Il y a un an, j'ai fait un certain nombre de propositions sur les questions de justice. C'est des propositions que je reprends aujourd'hui. J'ai pas attendu, évidemment, un drame pour faire un certain nombre de propositions. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, et je pense que les Français en sont conscients avec ce drame, et surtout le fait qu'il aurait pu être évité, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle justice. On doit garder les grands principes de notre droit et de notre justice, mais on doit avoir une nouvelle organisation de notre système judiciaire pour plus de fermeté et pour un certain nombre de priorités, comme la lutte contre la pédocriminalité, évidemment un suivi particulier.
Vous mettez une sorte de parallèle en effet entre la manière dont il faut traiter la pédocriminalité et le terrorisme. Il y a eu un grand débat autour des attentats à partir de 2015 en France sur la question de est-ce que les radicalisés pouvaient être déradicalisés? Est-ce qu'on pouvait traiter? Est-ce qu'on pouvait, au fond, une fois qu'on avait purgé sa peine, être réintégré dans la société? Ce débat-là, il se pose, et c'est une forme de parallèle, sur la question des pédocriminels. Est-ce que, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils peuvent revenir dans la société? Est-ce qu'il faut les ficher? Est-ce que vous considérez qu'à vie, un pédocriminel doit avoir l'étiquette pédocriminel sur son front?
Il y a beaucoup de débats, y compris d'experts, de scientifiques sur ces questions-là. Ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'il doit y avoir un suivi qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que dans les propositions que je fais pour appliquer le même traitement et le même suivi aux pédocriminels qu'aux terroristes, je propose par exemple qu'on mette en place un service de renseignement dédié. On a pour le terrorisme évidemment des services de renseignement dédiés qui suivent des terroristes ou des personnes qui manifestement sont en train de préparer un attentat terroriste. Il faut qu'on ait de la même manière un service de renseignement dédié à la pédocriminalité pour traquer les grands réseaux, pour prendre des mesures administratives quand elles sont nécessaires pour enquêter, et ça fait partie de ce parallèle que je propose.
Avant de passer à la suite, je rajoute quand même que dans cet entretien au Parisien, Édouard Philippe, il est dur avec vous, mais alors par contre il fait les yeux doux à Gérald Darmanin, parce que quand on interroge sur la responsabilité du ministre de la Justice, il dit « je le soutiens totalement ». Il y a des histoires quand même d'alliances, de signaux. Est-ce que vous pouvez me décrypter cette histoire?
Non, enfin moi je suis pas là pour faire du décryptage politique, et surtout moi je vous ai dit je vais pas faire de politique politicienne autour de ces sujets. Ils sont beaucoup trop graves.
beaucoup. Mais là, est-ce qu'il y a une alliance qui est en train de se
non,
dessiner
si votre question, par ailleurs,
contre vous?
Mais si votre question par ailleurs, c'est si j'apporte mon soutien au ministre de la Justice, au garde des Sceaux, évidemment, personne peut douter de sa détermination à faire bouger notre système judiciaire, à prendre des mesures extrêmement fortes pour répondre et pour réagir à ce qui s'est passé dans ce drame. Déjà auparavant,
est-ce
il avait
ce
fait un
joue
certain
aussi,
nombre de propositions.
Est-ce que ce joue aussi, c'est le fait que Gérald Darmanin, il va falloir quand même à un moment soit qu'il décide d'y aller, soit qu'il décide de soutenir l'un de vous deux.
Non, c'est, j'espère pas.
Je dis pas que c'est un combat de MMA, mais enfin, il y a quand même un peu. Pour ça, on se demande lequel des deux il va choisir.
Vous savez, Apolline de Malherbe, j'espère pas vraiment qu'on fait de la politique politicienne ou de des questions présidentielles sur ce sujet qui est un drame absolu. En tout cas, moi, je le dis, ce sujet-là peut être un sujet autour duquel il y a une union sacrée des politiques, quel que soit leur parti. Parce qu'on parle de nos enfants, c'est-à-dire les plus vulnérables, les plus fragiles. Et le rôle de la République, notre rôle à tous, c'est d'assurer leur protection.
Avec quand même une question, c'est que, comment vous ferez à un moment pour décider qui y va? Moi, je veux dire, savez... vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes à peu près sur la même famille. En tout cas, originellement, vous êtes tous les deux d'anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, il y en a un qui va dire « je lâche l'affaire et je laisse l'autre » ?
J'ai fait des propositions en ce sens. Parce qu'évidemment, moi, j'appelle au rassemblement. Je veux qu'on évite un deuxième tour entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et pour ça, il faudra probablement se rassembler au début de l'année 2027. Donc j'ai fait une première proposition qui est une instance qui permette aux différents partis politiques que vous avez évoqués d'échanger, de travailler. Il y a déjà eu plusieurs réunions sur le sujet. J'ai fait une deuxième proposition. Si on n'arrive pas à départager par la dynamique, par les sondages entre les différents candidats, qu'il puisse y avoir l'organisation d'une primaire. C'est des propositions que j'ai mises sur la table, que je fais pour le rassemblement. Mais je vais vous dire, Apolline de Malherbe, indépendamment des questions arithmétiques, de savoir si on ajoute tel candidat avec tel candidat, indépendamment des questions de barrage, contre la France insoumise, contre le Rassemblement national. L'enjeu, c'est d'aller convaincre les Français. L'enjeu, c'est de parler d'un projet politique pour le pays. On n'arrivera pas à convaincre les Français en leur disant « votez pour nous parce qu'on a réussi à se mettre d'accord entre nous ». Mais se mettre d'accord, pourquoi ? Donc moi, j'avance, je m'exprime devant les Français, je leur parle, je leur dis quelles sont mes priorités. École, salaire, frontières, IA. C'est les quatre chantiers capitaux que j'ai affirmés au lancement de ma candidature. Si on arrive à relever ces défis, école, salaire, frontières, IA, la France peut redevenir la première puissance d'Europe en 10 ans. Ça doit être ça notre objectif. Pour les Français qui nous regardent, pour la puissance du pays, pour leur salaire.
Quand vous dites, je m'exprime, je viens devant les Français, par contraste, le fait qu'Édouard Philippe soit davantage dans une forme de retrait, il répond à des interviews par écrit, moins par...
C'est ça non, ce c'est que, pas ce que je dis. Moi,
chacun sa formule. Quoi.
Non, en fait, ce que je dis, c'est que plutôt que de se parler entre partis politiques, il faut plutôt parler avec les Français, il faut plutôt leur dire ce qu'on a envie de faire, il faut plutôt leur donner notre vision. Moi, ma vision, elle est claire. Je veux qu'à nouveau, les Français puissent se dire que leurs enfants et leurs petits-enfants auront une meilleure vie que la leur. Comment est-ce qu'on y arrive? En redevenant la première puissance d'Europe.
Vous avez
comment
parlé...
est-ce qu'on redevient la première puissance d'Europe? En ayant des priorités, école, salaire, frontières, IA.
On les
je
a,
le dis,
crois.
Parce que c'est très important et c'est sur ça qu'on sera jugé.
Alors,
sera redevenir
l'IA,
la
justement, ce week-end, Donald Trump a coupé une partie de l'IA aux Européens et au reste du monde, estimant qu'il y avait des dangers pour la souveraineté américaine et donc, notamment pour Claude, on n'y a plus accès au niveau supérieur. Est-ce que
5.
Ça veut dire que désormais, nous sommes les vassaux de l'Amérique?
Mais ça veut dire qu'on est quelque part dans une guerre technologique et qu'il y aura les gagnants et les perdants. L'IA, on peut en penser ce qu'on veut, elle est là, elle sera de plus en plus là. La question, c'est est-ce qu'on se donne les moyens de la dominer ou est-ce qu'on la subit?
Mais qu'est-ce qu'il faut dire là à Donald Trump quand il arrive sur le sol français?
Mais vous savez, indépendamment de Donald Trump, Apolline de Malherbe, la réaction à avoir, c'est faire en sorte que la France et l'Europe puissent maîtriser elles-mêmes l'intelligence artificielle. Je suis le seul candidat à mettre dans mes priorités depuis le début, j'ai pas attendu cette affaire, la question de l'intelligence artificielle. Il y a deux priorités. Un, il faut évidemment avoir les meilleurs modèles. Deux, il faut diffuser l'IA dans notre économie. Les États-Unis font la course aux meilleurs modèles. La Chine fait la course à la diffusion de l'IA dans son économie. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la supériorité technologique qui fait la supériorité économique et militaire.
Donc il faut
pour le dire autrement.
Avoir besoin d'eux.
Et bien sûr, il faut être totalement indépendant d'eux. Et pour le dire autrement,
enfin totalement indépendant.
C'est parce qu'on
Outlook, Apple,
bien
Google,
sûr.
Les iPhones. Si demain il veut faire pour cela ce qu'il a fait sur Claude
évidemment,
son week-end,
on paye Apolline de Malherbe des décennies pendant lesquelles les gouvernants européens ont décidé de sous-traiter notre défense aux États-Unis, notre industrie à la Chine, notre énergie à la Russie et aux pays du Golfe. Et sur les questions technologiques, on paye le fait qu'on a raté la révolution numérique au début des années 2000.
Vous avez peut-être entendu Raphaël Glucksmann en meeting ce week-end. Il a dit notre ennemi a un visage et il a un nom. Il s'appelle Elon Musk ou Sam Altman.
Non, mais notre ennemi, c'est nous-mêmes. Si on n'est pas capable de prendre les mesures qu'il faut pour nous aussi être capable de maîtriser
cette technologie. Mais est-ce que c'est nos ennemis, Elon Musk et Sam Altman?
Encore une fois, c'est des concurrents, c'est des leaders, pour certains, des grands entrepreneurs qui ont permis de créer des géants internationaux. C'est pour certains des politiques ou quasiment politiques qui cherchent à faire de l'ingérence et en cela, évidemment, qui sont des ennemis. Mais l'important, encore une fois, c'est de regarder le principal ennemi qui est nous-mêmes si on n'est pas capable de prendre conscience de l'urgence qu'il y a à faire tout ce qu'il faut pour dominer cette guerre technologique qui s'ouvre. C'est les salaires des Français demain. Vous savez, si aujourd'hui les salaires des Français sont plus faibles que les salaires des Américains, c'est parce que les Américains ont gagné la révolution numérique au début des années 2000, ce qui leur permet d'avoir de meilleurs salaires et de dominer aujourd'hui la question de l'IA. 3 milliards d'euros par jour sont investis par les GAFAM en recherche sur l'IA. Si on rate la révolution de l'intelligence artificielle, c'est l'appauvrissement généralisé de la France et de l'Europe demain. Et oui, nos enfants, nos petits-enfants, pour Merci. Travailler, auront le choix entre servir du café aux Américains ou du thé aux Chinois quand ils viendront en France et en Europe visiter notre patrimoine. Et pour le reste, on sera effectivement colonisés.
Gabriel Attal, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Candidat à l'élection présidentielle et ancien Premier ministre, bien sûr. Il est 8h47.
Merci Apolline. La suite sur RMC, c'est ce débat. Faut-il suspendre le permis en cas d'usage du téléphone au volant? Et puis le Mondial de Virginie, vous connaissez le rendez-vous. Restez bien avec nous, on revient dans quelques secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. Dans un instant, le Mondial de Virginie. Mais d'abord, on parle du téléphone au volant. C'est le choix de la rédaction ce matin. Bonjour Pierre Bourgès.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Correspondant RMC à Bordeaux, Pierre, vous nous révélez ce matin que depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus pour usage du téléphone au volant. C'est un chiffre RMC et ce matin, le département des Deux-Sèvres devient le 8e département à mettre en place cette mesure. Il faut dire que les automobilistes, Pierre, sont nombreux à utiliser le téléphone en conduisant.
Ben oui, la preuve lors d'un contrôle routier que j'ai pu suivre près de Niort il y a quelques jours, les gendarmes étaient positionnés sur un rond-point d'une zone commerciale. À ce moment-là, c'était surtout pour faire de la prévention. Mais vous le disiez, Mathieu, à partir d'aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, ces sanctions peuvent désormais tomber. Et ici, en moins d'une heure, 6 personnes ont été arrêtées pour l'usage du téléphone au volant.
Bonjour monsieur. Bonjour. Sur la moyenne nationale. Donc je procède à votre contrôle par rapport à l'usage du téléphone.
Oui,
je vous ai dit. Ça entraîne une suspension du permis de conduire, d'accord? L'infraction du téléphone.
Dans les Deux-Sèvres aussi? Je crois que c'est en Charente-Maritime.
Dans les Deux-Sèvres aussi. D'accord.
Le directeur du cabinet du préfet des Deux-Sèvres, Tony Chenet-Lloyd, était lui aussi présent.
Nous avons fait le choix dans le département des Deux-Sèvres de démarrer par une période de 15 jours. On se doute que la suspension d'un permis, ça n'est pas neutre, notamment pour des gens qui travaillent. L'objectif, c'est d'abord de faire prendre conscience aux automobilistes que la route est un espace partagé et qu'il est impératif d'être concentré, de ne pas être distrait par le téléphone.
Alors, on le disait, Pierre, les Deux-Sèvres, c'est le 8e département à mettre en place cette mesure. Les sanctions sont vite tombées.
Oui, ce sont des chiffres que l'on vous révèle ce matin sur RMC. Depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus, 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne. Depuis le 1er mai en Charente-Maritime, ce sont aussi 55 permis qui ont été retirés. Et dans les Landes, premier département à avoir mis en place cette sanction, 400 permis ont été suspendus depuis le 1er janvier.
Vous avez retrouvé d'ailleurs une automobiliste qui a été victime de cette nouvelle règle?
Oui, j'ai rencontré Claire, cette coach sportive landaise nous raconte comment elle a perdu son permis en janvier dernier pendant 2 semaines.
En milieu de chemin, mon support téléphone a cassé et à ce moment-là, j'avais besoin de mon GPS. Donc je tiens mon téléphone dans la main et en fait, j'entends la sirène qui me prévient que je me suis fait voir en tenant mon téléphone, quoi, tout simplement. Si je dois être honnête, je me suis effondrée parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps et je suis à un endroit où il n'y a pas de moyen de transport. Et donc là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Même 15 jours, c'est une catastrophe. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Alors oui, c'est embêtant quand on travaille, même 15 jours, mais on va le rappeler quand même, conduire avec son téléphone à la main, c'est illégal, Pierre.
Mais c'est surtout très dangereux, comme le rappelle Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.
Quand vous téléphonez au volant, vous avez des temps de réflexe qui sont multipliés par 2. Donc des distances d'arrêt et de réaction qui sont multipliées par 2. Vous avez un champ de vision qui est réduit de 35% et vous avez aussi votre attention qui est réduite de 30%, y compris lorsque vous téléphonez en Bluetooth.
Alors lui salue cette sanction qui peut s'échelonner de 15 jours à 6 mois si d'autres infractions sont constatées en même temps. Il encourage même les autres départements à mettre en place également cette mesure.
Mais est-ce qu'au moins c'est dissuasif ?
Alors selon les chiffres des départements, oui, dans les Landes et en Charente-Maritime par exemple, depuis la mise en place de cette sanction, le nombre d'infractions constatées a diminué de 10 à 25%.
Merci Pierre Bourges, correspondant dans le Sud-Ouest pour RMC. RMC, c'est bien sûr aussi la radio de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Coupe du Monde que vous vivez avec RMC, avec Virginie le matin. On est en plein dans le premier tour de cette Coupe du Monde, mais on va le dire, hein, on pense déjà demain à France-Sénégal.
Évidemment, et on connaît l'arbitre qui va officier pour ce match d'entrée de la France dans cette Coupe du Monde, c'est l'Australien Alireza Fagani. Vous allez me dire oui, d'accord, et c'est pas lui qui joue, donc on en fait quoi ? Ben oui, mais on le connaît cet arbitre, c'est l'homme qui tenait le sifflet à ce moment-là.
Second poteau Pavard.
Ah ben je l'aime bien.
Ah ben oui, forcément, on l'aime bien. Le bon souvenir par excellence, 2018, huitième de finale de l'équipe de France contre l'Argentine. La France qui revient à deux partout grâce à donc Benjamin Pavard.
Les Bleus qui vont jouer dans un stade pas facile d'accès, hein, contre le Sénégal.
Le MetLife Stadium près de New York. Il faut espérer pour les supporters que ce sera moins la pagaille que ce week-end pour le match Brésil-Maroc au même endroit, vu que le prix du train pour s'y rendre du centre-ville a grimpé à près de 100 $. Beaucoup de supporters ont voulu prendre le bus, mais il n'y en avait pas assez. Résultat, ils se sont rabattus sur des taxis partagés qui se sont retrouvés coincés dans les bouchons. Bon, alors tout le monde est arrivé très en retard. Franchement, autant le dire, vous êtes mieux sur RMC pour suivre la
Coupe du Monde. Ah, il n'y a pas de débat là-dessus. L'avion des Bleus a eu un peu de retard au départ de Boston pour New York, mais ça, c'est rien à côté de l'Uruguay.
Ah, bah, l'équipe uruguayenne a patienté 4 heures dans son avion à l'aéroport de Cancun au Mexique pour rejoindre Miami. C'est là que l'Uruguay affronte l'Arabie Saoudite à minuit ce soir. L'avion n'avait pas les documents nécessaires pour entrer dans l'espace aérien américain. Il a fallu que la FIFA remue ciel et terre pour obtenir ces fameux papiers de l'administration américaine. Les Uruguayens ont annulé leur conférence de presse prévue à l'arrivée. Normalement, c'est passible d'une forte amende. Oui. Mais la FIFA devrait quand même être compréhensive.
Elle est souple en ce moment, la FIFA. L'équipe d'Angleterre est maudite dans cette Coupe du Monde, Virginie.
Les Anglais n'entrent en lice que mercredi, mais ils ont déjà eu quelques frayeurs. Il y a eu la fusillade près de leur camp de base où ils n'étaient pas. Il y a eu les répliques d'un séisme près d'Orlando où ils jouaient un match de préparation. Samedi, une partie de leur matériel d'entraînement, des ballons et des chaussures, a été volée alors qu'il était en cours d'acheminement vers leur centre à Kansas City. Et voilà qu'hier, les Anglais ont dû se confiner dans leur hôtel à cause d'une alerte tornade dans la région. Ça commence à faire beaucoup avant même le premier match.
En fait, ils n'ont toujours pas joué, c'est vrai. Ils devraient se trouver une mascotte, les Anglais, comme les Mexicains.
Bah, je vois plus que ça. C'est le supporter le plus connu de l'équipe du Mexique. Maintenant, un canard nommé Merlin, un vrai, hein, pas une peluche. Il est habillé avec le maillot de l'équipe nationale. Il déambule dans la rue avec des chaussettes aussi pour pas se blesser. Tout ça sous les hurrahs de la foule. Pas les coins-coins. Hein. Merlin est la nouvelle star des réseaux sociaux. Sa propriétaire voit en lui quelque chose de magique, d'où le nom. Tout est bon pour encourager son équipe, en fait. Hein.
On va finir en musique, Virginie, ce matin.
Mais oui, alors c'est quoi cette musique qui accompagne les joueurs à leur entrée sur les terrains ? Alan Parsons Project, le titre Sirius, ça date de 1982. Alors c'est une super musique d'entrée, mais 1982, là pour le coup les souvenirs, on repassera, c'est vieux, on n'en parle plus.
Non, je sais même pas de quoi vous parlez. Non, c'est la musique des Bulls qui est rentrée avec Michael Jordan aussi.
On va voilà. Dire ça comme ça.
Alain Marshall disait non, de la tête sur 1982.
Moi je suis un maudit de la génération 82. Ce match que j'ai vu en direct à l'époque, je n'ai jamais revu depuis. Et que je me refuse à
ce match-là.
C'est
oui.
Dur.
Non. C'est 82, laisse tomber.
On a fait mieux après.
Hein. Oui, les grandes gueules arrivent. On recommandera avec lui, avec Mourad Boudjelal, sa fameuse sortie. Encore 3 déclarations de revenus et je me casse. Elle a fait des millions de vues. Elle a eu un sacré écho. Mourad Boudjelal viendra s'en expliquer dans les GG, dans les grandes gueules. On reparlera des suspensions de permis pour cause de téléphone au volant. De Xavier Bertrand sur BFM TV qui dit c'est difficile de vivre en France quand on est musulman et qu'on n'est pas blanc de peau. Et puis nous recevrons une magistrate, Valentine Vendôme, c'est son pseudo. Elle est procureure le jour, écrivaine la nuit. On reparlera de la justice avec elle, bien sûr.